Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Je suis trop fier. Trop fier de ce générique. Nous sommes en direct sur l'antenne de Graphite. Bonjour à tous. Après, je dirais presque 17 ans de bons et loyaux services sur l'antenne de Graphite. Biotine a démarré en 2008 dans cette émission. Nous avons enfin un générique, Enrique. Je suis hyper fier. Je suis doublement fier aujourd'hui, enfin en tout cas doublement heureux de vous retrouver pour ce générique. Et parce que voilà, j'ai été absent un certain temps. J'ai eu quelques petits problèmes de santé qui m'ont fait perdre ma voix. Alors pour un animateur radio, perdre la voix, c'est quand même quelque chose d'assez cruel, on va dire. Alors c'est pas totalement revenu, vous verrez peut-être tout au long de l'émission, parce que plus je parle, plus je fatigue, et que des fois j'aurai peut-être quelques difficultés, je préfère vous le dire tout de suite, pour que vous ne soyez pas surpris en disant « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Il a une voix bizarre aujourd'hui, oui, c'est normal. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission, effectivement, de vulgarisation scientifique, hein, Biotine, tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez entre 12h et 13h en direct, la rediffusion le mardi matin, sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent donc sur Internet. Alors, il paraît qu'on écoute Enrique à Sao Paulo, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, mais avec graphite.net, vous nous écoutez où que vous soyez, en tout cas là où on capte bien sûr du réseau, ce qui est essentiel, peut-être même dans la station spatiale internationale. Pendant mon absence, il s'est passé pas mal de choses au niveau de l'actualité scientifique, même jusqu'à ce matin on a appris pas mal de choses, donc on parlera de ces astronautes qui sont coincés dans l'espace et qui nous écoutent peut-être s'ils ont du réseau, ils devraient revenir. On va parler d'Elon Musk qui a annoncé cette nuit que justement on pourra partir à la conquête de Mars. On parlera bien sûr des États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, et au niveau scientifique, ça se bouscule un peu. Il y a Naples qui a tremblé cette semaine. Il y a un astéroïde qui va se diriger vers nous, sur nous apparemment, ou pas loin, on n'en sait rien. En tout cas, ça panique un petit peu. Le Covid-19 se serait probablement échappé d'un laboratoire. C'est la CIA qui l'annonce. Au niveau géopolitique, on parlera de l'Ukraine, on parlera de la Russie. La science est effectivement au cœur de l'actualité. Je suis très heureux de vous retrouver et de reprendre un peu tous mes réflexes avec donc aussi un peu de musique pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble au niveau de Biotine pour sur l'antenne de Graphite. Nous sommes le 15 mars aujourd'hui, pas de journée internationale malheureusement. Alors si, apparemment c'est la journée internationale du disco, mais enfin bon, je vais vous épargner du disco sur l'antenne. Le 15 mars 1880 12, Jesse Reno lance un brevet, le brevet du premier escalier mécanique roulant à New York. Ça date de la fin du 19e siècle quand même, l'escalier mécanique roulant, l'escalator, en 1892. En 1906, c'est le lancement de la marque de la voiture de luxe Rolls-Royce en 1906. Plus proche de nous, c'est en 82 que Fuji lançait le premier appareil photo jetable, 1982 quand même. Et puis, bon, beaucoup plus proche de nous, en 2007, c'est l'inauguration officielle de la ligne grande vitesse est-européenne en France, hein, 2007 quand même. Et puis, on en avait parlé dans cette émission, il y a 9 ans, en 2016, il y a un programme informatique qui bat les meilleurs mondiaux au jeu de Go. Ça avait fait énormément de bruit, c'était il y a 9 ans, un ordinateur avait battu un humain au jeu de Go. C'était quand même assez énorme. Naissance, le 15 mars 1850. D'Emil Adolf von Behring, médecin prussien, premier lauréat du prix Nobel de médecine en 1920 pour avoir découvert le sérum de l'antitoxine de la diphtérie. Et il a amené également une approche rationnelle des maladies. Behring propose un vaccin contre la diphtérie en 1913, vaccin efficace en laboratoire et qu'il s'avère totalement inefficace sur le terrain. C'est un petit peu dommage. Il est donc né le 15 mars 1954. Décès le 15 mars 1898 d'Henry Bessemer, industriel métallurgiste britannique. Il est surtout connu par le procédé d'affinage industriel de la fonte pour fabriquer de l'acier. Nous sommes en 1855. C'est un procédé qui va porter son nom, Bessemer, et qui va s'imposer partout en Europe en raison de son faible prix de revient. Ah, mais oui, effectivement, parce que dans cette émission, on parle de science, mais on parle aussi souvent d'économie. Et donc, décès le 15 mars 1898 d'Henri Bessemer. Alors, j'ai tellement de feuilles et tellement d'articles à évoquer avec vous que j'ai essayé de faire un petit tri dans tout cela et de faire, je dirais, un fil conducteur assez cohérent. Et ben, j'ai envie de vous parler d'espace parce que pour moi, ça me fascine. Et comme je vous l'ai dit, l'espace, c'est vraiment au niveau de la décennie que nous sommes en train de vivre, vraiment quelque chose d'assez intéressant, d'assez fantastique d'un point de vue technologique. Et puis, des fois, ça plante, hein, ça arrive parfois. Et ben, vous savez, bien sûr, qu'il y a ces astronautes qui sont coincés dans l'espace, et bien donc qu'on a appris, alors je suis en train de vous lire une dépêche de l'AFP qui date d'hier soir, qu'une mission habitée de la NASA s'est mise en route hier, donc, vers la Station Spatiale Internationale pour permettre le retour des deux astronautes américains coincés dans l'espace depuis 9 mois. C'est une fusée Falcon 9 de l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, qui a décollé hier du Centre Spatial Kennedy en Floride. Il y a 4 astronautes à bord. Alors, c'était initialement planifié mercredi. Il y a eu un décollage qui a été annulé à la dernière minute en raison d'un problème technique suite sur un problème de support au sol. Donc, ils ont arrêté tout ça. Il y a une inspection qui a été menée. Et puis, on a découvert une espèce de poche d'air qui était probablement à l'origine du problème. On a évacué ça. Et bah, normalement, c'est bon. C'est ce qu'a fait savoir la NASA. Et ils ont pu donc décoller hier soir. Cette mission nommée Crew 10 doit permettre à Butch Gilmore et Sunny Williams, deux astronautes américains coincés dans la Station Spatiale Internationale depuis juin dernier, de pouvoir revenir sur Terre. Ouf, on respire pour eux. Alors, ils pourraient entreprendre ce retour dès ce mercredi prochain, donc quelques jours, quelques heures presque après l'arrivée du nouvel équipage à bord d'un vaisseau de SpaceX. Et non à bord d'un appareil Starliner de Boeing qui les avait acheminés et puis ça avait rencontré des défaillances. Ils étaient initialement partis pour une mission de 8 jours. Hein, et bien, ces deux vétérans de l'espace ont vu leur séjour s'éterniser en raison des problèmes détectés sur le système de propulsion de l'appareil. Ces défaillances ont conduit la NASA à renvoyer donc le vaisseau de Boeing à vide et de faire revenir les deux astronautes avec l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Un périple qui a bien sûr pris une tournure politique parce qu'entre-temps, il y a eu apparemment des élections aux États-Unis, le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, qui a donc accusé son prédécesseur Joe Biden d'avoir volontairement, je cite, « abandonné les deux cosmonautes ». Elon Musk, qui est également proche du président américain, a lui assuré qu'il aurait pu les secourir. Tu m'étonnes, il y a longtemps, hein, mais il n'a pas précisé comment, mais avec lui, ça n'aurait jamais eu lieu. Il a même eu des mots assez durs, voire des insultes avec un autre astronaute qui l'accusait de mentir. Enfin bref, il y a pas mal de communication dans l'histoire. Le nouvel équipage qui est donc parti hier pour la Station Spatiale Internationale est constitué de deux astronautes de la NASA, d'un astronaute japonais et d'un cosmonaute russe. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on parle aussi un petit peu de géopolitique dans cette émission. En dépit de la guerre en Ukraine, eh bien, les États-Unis et la Russie ont poursuivi ces dernières années, leur collaboration dans le domaine spatial avec l'envoi de cosmonautes russes via SpaceX et d'astronautes américains par les fusées russes Soyouz lors des missions de rotation de l'équipage de la Station Spatiale Internationale. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrit cette nouvelle mission. Ces participants seront chargés de réaliser des expériences scientifiques et technologiques dans le laboratoire spatial. Et après une période de passation de quelques jours entre les deux équipages, eh bien Butch Gilmore et Sunny Williams sont censés revenir sur Terre avec un autre Américain et un autre Russe également qui vont revenir. Donc ça devrait, ce retour, ça devrait se tenir au plus tôt mercredi prochain, c'est ce qu'a précisé la NASA. Le vaisseau de SpaceX devrait amerrir au large de la Floride avec un système de parachute qui va pouvoir faire office de frein. Donc ce séjour dans l'espace est un petit peu éternisé pour Butch Wilmore et Sunny Williams. Ça devait être une semaine, ils vont passer un petit peu plus longtemps, pas moins de 9 mois. Alors ils n'ont pas dépassé un record, celui de l'Américain Frank Rubio, qui lui avait vécu 371 jours à bord de la Station Spatiale Internationale en 2023. Il devait y rester 6 mois, il est resté plus d'un an en raison d'une fuite du liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe qui était prévu à son retour. Bref, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on revient. C'est un petit peu la leçon de tout ça. Mais quand même, 9 mois, il a dû se passer des choses sur Terre, dans leur famille entre-temps, et puis ils vont revenir. Ça va faire... c'est assez particulier, on va dire. Donc on suivra ça, bien sûr, cette semaine, pour avoir le retour en bonne et due forme de ces deux pauvres astronautes américains. Pendant ce temps-là, cette semaine, toujours au niveau de l'actualité, et précisément dans la nuit de mercredi à jeudi, il était 1h du matin, les habitants de Naples ont été tirés brusquement de leur sommeil par de fortes secousses. Il y a eu un séisme de magnitude 4,4, ce qui est quand même assez important. Ça a fait trembler le sol pendant une vingtaine de secondes, ce qui a poussé les résidents à quitter précipitamment leur maison pour se réfugier dans la rue. Il y a eu quelques dégâts qui ont été recensés sur certains bâtiments. Les pompiers inspectent désormais avec minutie tous ces bâtiments pour prévenir toute nouvelle chute de gros blocs de pierre. C'est vrai que c'est assez dangereux. Il y a quand même eu quelques blessés qui ont été dénombrés, dont une femme qui s'est retrouvée enfouie sous les décombres après l'effondrement du plafond de sa maison. Quand même, c'est assez important. L'épicentre du séisme est localisé à seulement 2 kilomètres à l'ouest de Naples, sous la ville de Pouzzoles. Alors, il faut rappeler qu'on est quand même là au niveau du plus grand volcan actif d'Europe. Faut pas l'oublier, quand vous allez à Naples, vous le voyez, ce grand volcan qui est donc encore en activité. Alors, la dernière éruption de ce volcan, considéré comme dangereux, remonte à plus de 500 ans. C'était en 1538. Il y a eu de nombreux signes qui témoignent bien d'une activité au niveau du magma, activité assez soutenue, mais bon, pour l'instant, et puis une sismicité qui est assez régulière également, mais voilà, donc ça a tremblé cette nuit. Ce dernier séisme est considéré avec sérieux parce qu'il s'inscrit dans une tendance récente de l'augmentation de l'activité sismique. Ce séisme serait l'un des plus forts depuis 40 ans. Donc voilà, c'était cette semaine, en pleine nuit. C'est toujours en pleine nuit, en fait, j'allais dire. Toujours l'impression que ça ne peut être qu'en pleine nuit, que ça peut trembler. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu dors, ça vibre 20 secondes, à peine le temps de réagir, et voilà. C'est jamais en pleine journée, quand on est en plein été, qu'on est tout le monde est dehors. Non, c'est toujours en plein hiver, quand il fait nuit, que ça se passe. Mais voilà, on suivra ça également. En tout cas, les Napolitains suivent cela avec pas mal de sérieux et parfois peut-être même un petit peu d'inquiétude, bien évidemment. Alors, dernier petit article avant d'écouter un petit peu de musique sur l'antenne de graphite, c'est cet astéroïde qui menace de percuter la Terre. On le connaît depuis quelques semaines seulement, mais il est activement surveillé. Un astéroïde qui s'appelle 2024 YR4, il a été découvert fin décembre. Un astéroïde, de 40 à 100 mètres de diamètre qui présente une faible probabilité d'impact avec la Terre. Alors, on sait déjà si ça a lieu, quand est-ce que ça aura lieu. C'est le 22 décembre 2032. Donc, notez ça dans vos agendas. Le 22 décembre 2032, peut-être que ça va être la fin du monde, on n'en sait rien. Le risque est pour le moment évalué à un peu plus de 2% et pourrait être rapidement écarté lorsqu'on aura un petit peu plus d'informations sur les trajectoires, bien évidemment. Alors, le risque est minime, mais il est crucial de suivre et d'étudier ces objets pour mieux comprendre notre environnement spatial. Bon, de toute façon, une augmentation de la probabilité d'impact, c'est une chose courante lorsque les paramètres au niveau des orbites de ces astéroïdes sont affinés au fil des observations, bien évidemment. Plus on en sait un peu mieux sur leur trajectoire, plus on est capable de pouvoir savoir où est-ce qu'ils vont aller. Alors, il y a eu des nouvelles observations qui ont été menées entre-temps, hein, notamment en février. Ça a permis de réduire la zone d'incertitude liée au passage de cet astéroïde. Le 20 février, il y a eu un communiqué de la NASA qui indique que la probabilité est seulement de 0,28%. Bon, 0,28%, on a envie de dire ouf, c'est bon, ça passera à côté. Alors, la Lune, elle a des probabilités un petit peu plus importantes. C'est-à-dire que ça va peut-être frôler la Terre, mais ça va peut-être se prendre la Lune. Le risque a été évalué depuis à 0,001%. Donc, le risque semble écarté, presque entièrement écarté. Tout est dans le presque, hein, dans les communiqués, bien évidemment. Mais donc, voilà, en février, où je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir animer cette émission Biotine, c'était un petit peu l'actualité avec cet astéroïde qui allait se prendre la Terre. Et entre-temps, voilà, on en sait un petit peu plus et avec un risque qui désormais est quasiment écarté. Et donc là aussi, on suivra bien sûr le circuit de cet astéroïde 2024 YR4 qui voilà, sera proche de nous le 22 décembre 2032. Vous écoutez Biotine, c'est de l'actualité scientifique. C'est aussi un peu de musique parce qu'on aime bien en fait.
Thank you.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Oh, c'est classe, maintenant que mon prénom et mon nom maintenant sont diffusés en direct sur antenne de Graphite. Qu'est-ce que je suis fier de moi. Et je suis fier de l'équipe. Merci Léo pour tout cet habillage de Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent, sur la bande FM, je vais y arriver, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Faut que je reprenne mon souffle. Pas habitué à parler aussi longtemps maintenant. J'ai perdu mes réflexes, je crois. C'était Cyrillis sur l'antenne de Graphite. C'est ce que l'on vient d'écouter, bien sûr. L'actualité, toujours au niveau de l'espace, avec cette déclaration encore d'Elon Musk, qui a déclaré cette nuit que la fusée Starship de SpaceX partirait pour la planète Mars à la fin de l'année prochaine. 2026, ça y est, on part pour Mars en 2026. Elle va transporter le robot humanoïde Optimus de Tesla. Alors, si l'atterrissage se déroule bien, alors que les missions habitées pourraient commencer dès 2029. Enfin, 2029, c'est demain. Alors, on considère aussi que ça peut être 2031, ce sera apparemment plus probable, c'est ce qu'annonce l'AFP, mais en tout cas, c'est quand même dans un laps de temps assez court, eh bien, ça pourrait vraiment être assez intéressant, hein. C'est ce que donc déclare Elon Musk dans ce message publié sur le réseau social X. Alors, Starship, elle est haute de 123 mètres, hein, c'est à peu près l'équivalent d'un immeuble de 40 étages. C'est la plus grande et la plus puissante fusée du monde. Son développement est essentiel pour satisfaire à l'ambition d'Elon Musk de développer des voyages vers la Lune et vers Mars. Alors, la NASA, elle attend également une version modifiée du vaisseau pour son programme Artemis qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune cette décennie. Mais avant de pouvoir mener à bien ses missions, SpaceX doit prouver que la méga fusée est fiable, sûre pour l'équipage et capable d'un ravitaillement complexe en orbite, ce qui est bien sûr essentiel pour les missions dans l'espace lointain. Or, bien, l'entreprise d'Elon Musk, elle a quand même essuyé un nouveau revers. Il n'y a pas longtemps, c'était le 7 mars dernier, lors du dernier vol d'essai. Il y a eu un test en janvier, ça a foiré. Eh bien, en mars, donc il y a une semaine à peu près, le 7 mars, eh bien, le vaisseau Starship a explosé en altitude, ce qui a généré une constellation de débris incandescents au-dessus des Caraïbes. C'était sympa pour eux. Ça a brièvement perturbé le trafic aérien, tu m'étonnes. Le premier étage de propulseur a néanmoins réussi à revenir et atterrir dans une manœuvre spectaculaire, que seul SpaceX maîtrise. C'est-à-dire qu'il a été attrapé par deux bras mécaniques sur le pas de lancement. C'est vrai que c'est assez fascinant. L'administration fédérale de l'aviation américaine a soumis depuis toute reprise des lancements à une enquête de SpaceX pour savoir ce qui s'est passé. Donc, ça foire encore un petit peu, même si technologiquement, ça reste quand même assez bluffant. Et donc là, Elon Musk a déclaré cette nuit que on ira sur Mars en 2026, donc l'année prochaine, première mission, en tout cas la fusée de SpaceX qui partirait l'année prochaine. Bien sûr, on suivra tout cela, bien évidemment. Alors, toujours au niveau d'Elon Musk et au niveau de l'actualité, un petit peu géopolitique, bien évidemment, où on va parler de l'Ukraine. Et il y a eu cette déclaration de la directrice générale de Telsat, qui a déclaré sur le plateau de BFM TV, elle s'appelle Eva Bernecke, lorsqu'on lui demande si le service OneWeb de Telsat pouvait aider les Ukrainiens à disposer d'une connectivité Internet au niveau des zones de guerre, hein, au niveau des zones du front, des zones blanches, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas de connexion Internet, eh bien, son dispositif pourrait peut-être essayer de répondre à ce besoin. Elle déclare « Nous avons les mêmes compétences, nous volons plus loin qu'eux, et donc nous couvrons plus loin qu'eux. Eux, c'est bien sûr Starlink, donc en fait c'est Elon Musk. Ce qu'elle déclare, c'est qu'en fait depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, malgré la dégradation et le brouillage des réseaux de données mobiles à l'est et au sud du pays de l'Ukraine, eh bien la connectivité elle est maintenue. pour l'instant grâce à l'abondance de kits Starlink. Et depuis cette date, eh bien, les forces armées ukrainiennes les exploitent pour gérer leurs drones d'attaque et pour assurer la coordination sur le terrain. Mais cette utilisation de son réseau à des fins militaires, ça n'a jamais vraiment plu à Elon Musk, le patron de SpaceX, ainsi brider leur exploitation à des fins militaires et s'est même montré critique sur le coût de la fourniture du service en Ukraine. Les terminaux restent toutefois bien présents et utiles sur le terrain. Et donc, alors que les États-Unis ont décidé il y a quelques jours de bloquer radicalement la fourniture de renseignements aux Ukrainiens, eh bien Elon Musk, en raison bien sûr de sa proximité avec la Maison Blanche, pourrait bien supprimer brutalement l'accès de ce réseau aux Ukrainiens. Et donc, c'est ce qu'a annoncé il y a quelques jours sur BFM TV Eva Bernecke. Pas de souci, dit-elle. Elle est donc directrice générale de cet opérateur en satellite européen qui s'appelle donc Eutelsat, et elle se dit prête à prendre le relais via son service OneWeb. Et depuis cette annonce, eh bien, la valorisation boursière de Telsat a gonflé de 200%. Toujours un peu d'économie dans cette émission, vous l'avez bien compris. Donc au sol, la solution de OneWeb est similaire à celle de Starlink, avec des terminaux qui peuvent lui ressembler. Mais la constellation, elle est limitée quand même à 630 satellites. C'est quand même 10 fois moins que pour Starlink. Mais la taille ne fait pas tout. C'est comme tout, c'est pas un souci. C'est ce qu'a appelé la directrice. Car les satellites de OneWeb se trouvent à plus de 1200 km au-dessus de la Terre. Autrement dit, OneWeb, même s'ils sont moins nombreux, couvre plus large, et c'est ça qui est important, plus large et donc plus loin, mais avec un inconvénient, c'est une latence supérieure qui pourrait impacter l'utilisation des drones. Autre lacune, ce sont les satellites qui ne sont pas interconnectés pour optimiser la bande passante, et la liaison semble moins résiliente en cas de brouillage. Pour le reste, si l'on retire le fait que Starlink est dirigé par un Elon Musk au service de Trump, eh bien les deux services se valent et l'arrivée de l'un en Ukraine pourrait bien contraindre le premier à rester opérationnel. C'est déjà un bon début pour maintenir une connectivité sur le terrain. Il existe également une autre nuance entre les deux services. OneWeb est essentiellement commercialisé comme service via des entreprises. D'ailleurs, l'Ukraine l'utilise déjà par l'intermédiaire d'un opérateur allemand et son déploiement est sans doute de facto plus contraignant en pratique. Donc malgré ces quelques différences, l'ajout massif de OneWeb en Ukraine est de toute façon appréciable. C'est bien mieux que rien, de toute façon, nous dit-on dans cet article de Futura Science. Mais encore faudrait-il que les militaires ukrainiens puissent l'intégrer à leur système, ce qui reste quand même l'essentiel du problème. Et autre détail qui compte, il faut également que les institutions européennes s'accordent pour valider le déploiement rapide de ces terminaux en Ukraine. Voilà donc au niveau de ces forces ukrainiennes qui vont apparemment pouvoir compter sur ce nouveau service OneWeb en cas d'arrêt de Starlink par Elon Musk. Voilà, on va continuer à parler de Elon Musk, de la NASA également, avec cette purge de la science américaine qui a commencé. Ce sera juste après Missia sur l'antenne de Graphite. Vous êtes tellement bien sur l'antenne de Graphite. Ah bah vous étiez endormi. Là, on vous a réveillé, Aliénor. C'était Missia sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On va encore parler d'Elon Musk parce que c'est quand même assez, un personnage assez intéressant. Il y a déjà longtemps qu'on parle d'Elon Musk dans cette émission de Biotine. Parce que, alors évidemment, là, il montre, on va dire, une autre facette de son personnage depuis un certain temps. Mais il y a quelques années, il était quand même assez intéressant d'un point de vue scientifique et technologique, en ayant un petit peu des idées, des envies, et se lancer parfois dans des, comment dire, dans des projets assez, assez intéressants d'un point de vue technologique. Et là, en fait, ça commence à devenir un peu particulier. C'est un personnage qui fait parler. Et là, il y a un article sur Futura Science qui est assez intéressant parce que ça fait le lien entre Elon Musk et la kétamine. Il y a eu la convention annuelle des conservateurs américains. C'était en février dernier. On a tous vu cette image où il est apparu sur scène, une tronçonneuse à la main, devant une foule enthousiaste. Et cette mise en scène, ça a quand même suscité pas mal de réactions. Alors, notamment en France, il y a ce sénateur de l'Allier qui s'appelle Claude Maluret, qui est un ancien médecin et qui a qualifié Elon Musk de bouffon sous kétamine. C'est une déclaration quand même un peu cinglante, mais qui remet un petit peu sur le devant de la scène l'aveu du patron de Tesla et du réseau social X qui concernait sa consommation de kétamine, notamment pour traiter des épisodes dépressifs. Et puis ça soulève de nombreuses questions sur les effets et les dangers liés à son utilisation en dehors du cadre médical. La kétamine, elle est principalement utilisée en milieu médical comme anesthésique générale, notamment en chirurgie vétérinaire. Et depuis quelques années, elle est également employée comme antidépresseur chez les patients résistants aux traitements traditionnels grâce à ses effets rapides sur l'humeur. Cependant, son usage thérapeutique doit être encadré et surveillé car la kétamine peut engendrer des effets secondaires importants tels que des troubles de la mémoire, des hallucinations ou encore une dissociation du corps et de l'esprit. Alors, si la kétamine, elle peut être bénéfique lorsqu'elle est administrée correctement et sous supervision, bien évidemment. Son usage détourné, de plus en plus fréquent, mais ça soulève un petit peu quelques préoccupations. Au milieu professionnel, il y a certains cadres qui se tournent vers des substances psychoactives comme la kétamine pour améliorer leur créativité ou pour mieux gérer leur stress. Et selon un article publié dans le journal Wired, il y a certaines organisations qui vont même jusqu'à proposer des séances de coaching en leadership sous kétamine. C'est inquiétant, on va dire, quelque part. L'idée, en fait, c'est de pouvoir favoriser un état dissociatif qui pourrait permettre aux dirigeants de surmonter des blocages créatifs ou des blocages émotionnels. Cette approche, elle n'est pourtant pas sans risque, en effet, parce que la kétamine altère la perception et la cognition, ce qui pourrait entraîner des prises de décision ou des comportements totalement irrationnels. Je vais y arriver. Elle est classée comme substance hallucinogène, quand même, la kétamine. Elle est également utilisée comme drogue récréative, bien le terme de drogue récréative, et elle est le plus souvent sniffée sous forme de poudre dans certaines soirées. Et selon les données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, il y a environ 3% des personnes en France de 18 à 64 ans qui déclarent avoir déjà consommé de la kétamine au cours de leur vie. Et en fait, il y a eu récemment la mort assez tragique de l'acteur Matthew Perry, qui était célèbre dans la série Friends. Cette mort a été associée à une surdose de kétamine. Et donc, ça nous rappelle un petit peu, nous dit-on dans cet article de Futura, de respecter les prescriptions médicales et de sensibiliser au danger des médicaments de manière générale lorsqu'ils sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Donc, je trouvais cet article assez intéressant parce que dire que c'est un bouffon sous kétamine, effectivement, c'est une formule faite pour choquer et pour être diffusée. Effectivement, les propos de ce sénateur ont été diffusés un petit peu partout dans le monde. Mais ça voulait dire quoi, précisément, être sous kétamine? Ben voilà, on a quand même des informations, un peu plus précises sur cela. Alors, si on reste toujours aux États-Unis, pardon, on assiste à une grande purge de la science américaine. Ça a été motivé au départ par Elon Musk et notamment par son département chargé d'auditer l'efficacité gouvernementale. Et donc, l'administration américaine, elle enchaîne les fermetures d'agences fédérales et les coups de rabot dans les budgets de l'État avec une certaine insistance dans la purge du milieu scientifique. Après 800 employés licenciés au sein de l'agence de la météo, eh bien, la menace pèse sur la NASA. L'agence spatiale américaine va déjà fermer deux bureaux. Alors, le premier bureau traite des questions de technologie, de politique et de stratégie et héberge notamment l'économiste en chef de la NASA, le directeur technique. Le rôle de ce bureau est surtout de proposer une vision transversale à tous les départements de la NASA sur ces questions et notamment d'en discuter avec les partenaires à l'international. Le second bureau qui est concerné est celui de la scientifique en chef Catherine Calvin, spécialiste du climat, membre du GIEC, hein, le GIEC c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, et le but de son bureau c'était de conseiller la direction de la NASA sur les intérêts scientifiques des programmes menés par l'agence. Enfin, l'agence elle va fermer une partie du bureau dédié aux questions d'inclusivité, de diversité et d'accessibilité. Tout ça poursuit un petit peu cette politique nouvelle du gouvernement américain de Donald Trump. Les employés en charge de l'inclusivité et de la diversité au sein de l'agence seront limogés, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses agences fédérales. Donc la fermeture de ces bureaux, c'est bien entendu symbolique, hein. D'une part, ces instances sont vues par Donald Trump et Elon Musk comme, je cite, inutiles, redondantes et comme une surcharge administrative, pardon, trop coûteuse. D'ailleurs, il y avait l'un des bureaux qui avait déjà été fermé en 2005 et 2011. D'autre part, le limogeage de la scientifique en chef annonce la couleur sur la vision des sciences à la NASA par la Maison Blanche à l'heure où courent de folles rumeurs. C'est une situation de stress pour les scientifiques de la NASA qui sont un petit peu tétanisés à l'idée de perdre leur emploi ou leur programme. Il y a une solide rumeur de coupe de 50% du budget de l'agence dédiée à la science qui se propage de plus en plus, bien que c'est non vérifié, que c'est démenti par la NASA. Le budget est en cours de discussion, mais l'administration Trump compte bien procéder à de plus grands licenciements. Dans son discours d'inauguration, Donald Trump, il visait clairement Mars, hein, c'est ce qu'il avait dit, avec l'idée de, je cite, d'y planter le drapeau américain. Et il a récemment confirmé que c'était plus une top priorité. De son côté, il y a Elon Musk qui qualifie la Lune de, je cite, distraction, ce qui veut dire que on pourrait faire une croix sur le programme Artemis et puis aller directement sur Mars. Ce qui se confirme un peu avec ce message diffusé sur les réseaux sociaux cette nuit où Elon Musk annonce justement qu'on ira sur Mars. Pour l'instant, le programme lunaire tient encore un peu, nous dit-on. C'est assez... C'est en plein changement. Et ce qui va se passer, ce qui va se décider, va bien sûr avoir un impact sur le moyen, sur le long terme, en termes notamment de politique spatiale. On a vu tout à l'heure aussi les collaborations qui existent au niveau international dans ce domaine-là. Et donc, ça peut être assez, comment dire, assez déterminant sur ce qui va se passer dans quelques temps, bien évidemment. Voilà, c'est ça que je souhaitais évoquer avec vous sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On n'avait pas eu l'occasion d'évoquer un petit peu toutes ces conséquences, ces répercussions, notamment sur le domaine scientifique et technologique. C'est donc chose faite pour terminer cette page espace. Juste vous dire, c'est le côté un peu people, parce qu'il nous faut aussi un peu de people dans cette émission. C'est la chose chanteuse américaine Katy Perry qui a annoncé qu'elle allait elle aussi partir dans l'espace à côté de 5 autres femmes, dont notamment la fiancée de Jeff Bezos. C'est ce qui a été annoncé il y a quelques jours par la société spatiale du fondateur d'Amazon, cette société qui s'appelle Blue Origin. On en parle aussi souvent dans cette émission. Ce vol va se tenir au printemps, hein, c'est ce qu'a précisé l'entreprise américaine dans un communiqué. Il s'agira du 11e vol habité mené par Blue Origin, qui propose depuis plusieurs années déjà des vols de tourisme spatial, hein, on l'a déjà évoqué dans cette émission, grâce à sa fusée New Shepard. Et donc l'artiste Katy Perry va partir dans l'espace. Elle sera notamment accompagnée de Kerri-Anne Flynn, productrice de films, et d'Amanda Nguyen, qui est fondatrice d'une ONG engagée dans le combat contre les violences sexuelles. Donc l'entreprise Blue Origin a déjà emmené 52 personnes, dont d'autres célébrités comme William Shatner, hein, qui incarnait le mythique Capitaine Kirk dans la série Star Trek. Ils sont tous passés au-dessus de la ligne de Kármán, qui marque à 100 km d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale. Et lors de cette expérience de quelques minutes, ça ne dure pas longtemps, les passagers vont pouvoir se détacher de leur siège et de flotter brièvement en apesanteur. La fusée entièrement automatisée décolle à la verticale, la capsule se détache en vol avant de retomber sur Terre. Elle va être freinée par des parachutes et un rétropropulseur. Le prix du billet est tenu secret. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir combien ça coûte de partir dans l'espace comme ça quelques minutes et de faire un petit tour en apesanteur, et le grand concurrent de Blue Origin pour ce type de vol, un petit peu de tourisme spatial, c'est Virgin Galactic, qui propose une expérience similaire. Donc le fait que Katy Perry a annoncé il y a quelques jours qu'elle va donc faire ce petit tour en l'air, ça remet sur le devant également ce tourisme spatial. Allez, on écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite, et puis on terminera en rendant hommage à la mathématicienne Yvonne Choquet-Bruyère, qui est décédé il y a quelques jours à l'âge de 101 ans. A tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Do
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Good enough, c'était Moon Gogo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On a donc appris que la mathématicienne et physicienne Yvonne Choquet-Bruhat était décédée, alors il y a déjà quelques temps, hein, mais comme il n'y a pas eu d'émission depuis mi-février, j'ai pas eu l'occasion de l'évoquer, son décès à l'âge de 101 ans. C'est le communiqué de l'Institut des hautes études scientifiques qui rappelle qu'elle était invitée justement dans cet institut en fin de carrière parce qu'elle y trouvait dans cet institut un environnement propice à la réflexion et aux échanges. Pour ma mère, l'Institut des hautes études scientifiques était un havre de paix, un endroit où elle s'est toujours sentie la bienvenue. C'est ce que témoigne son fils, c'est ce qu'il témoignait il y a quelques temps. En fait, Yvonne Choquet-Bruhat, elle a exercé une influence majeure sur cet institut. Sa présence était précieuse, a été appréciée de tous, tant du personnel scientifique, mais également du personnel administratif, et pour honorer sa mémoire, eh bien, il y a un pavillon qui va porter son nom, qui sera inauguré dans le parc de l'Institut des hautes études scientifiques au printemps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 14 mai 1979, Yvonne Choquet-Bruhat était la première femme élue à l'Académie des sciences depuis sa création au XVIIe siècle. Il était temps quand même. C'est une sommité de l'étude mathématique de la physique dans le cadre de la relativité générale. Et ce qui est sans doute inconnu du grand public, même cultivé, c'est qu'elle a été la première au tout début des années 50 à démontrer mathématiquement que les équations d'Einstein de la relativité générale conduisent bien à des phénomènes de propagation des déformations de l'espace-temps. Elle parlait donc déjà au début des années 50 des ondes gravitationnelles. Et bien que l'idée est que les premiers calculs avec la théorie de la relativité générale aient été avancés par Einstein peu de temps après la formulation complète de sa théorie, nous sommes fin 1915, et bien dans les décennies qui allaient suivre, des doutes s'étaient élevés entre physiciens et mathématiciens sur la réalité de ces ondes. Et c'est la démonstration d'Yvonne Choquet-Bruhat qui a été faite, et ça a été publié dans sa thèse en 1951. Mais c'est un petit peu plus tard, à la fin des années 50, notamment avec des arguments du physicien Richard Feynman, que le débat va prendre fin. Alors c'est toujours le cas, c'est quand même très souvent le cas, quand une femme explique un raisonnement, on va attendre qu'un homme l'explique également pour être certain. C'est toujours comme ça, en tout cas c'était comme ça dans le cas d'Yvonne Choquet-Bruhat. Elle est partie après sa thèse à Princeton, où elle a rencontré Einstein, avec qui elle a interagi à plusieurs reprises. Yvonne Choquet-Bruhat a été l'auteur de plusieurs ouvrages de physique mathématique, dont un très célèbre en deux tomes qu'elle a rédigé avec une autre Française venue aussi à Princeton après-guerre. Il s'agit de Cécile Levitte-Morette. Les accomplissements d'Yvonne Choquet-Bruhat en physique mathématique sont considérables, mais alors fort techniques. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas m'aventurer sur les sujets sur lesquels elle a travaillé, sur lesquels elle a apporté quand même énormément de choses. Il y a les questions des gaz, des plasmas en espace-temps courbe. Alors, l'espace-temps courbe, je ne peux absolument pas vous expliquer le dixième de ce que ça veut dire. On a également la généralisation de la théorie de la gravitation d'Einstein. Il y a également la supergravité, il y a le comportement des champs de Young-Mills, comme ceux au cœur du modèle standard de la physique des hautes énergies, et là également au niveau des espaces-temps courbes. Donc voilà, on comprend pas grand-chose, on comprend juste qu'Yvonne Choquet-Bruhat a été une grande physicienne, une grande mathématicienne, qui est donc décédée il y a quelques jours à l'âge de 101 ans. Il était quand même important dans cette émission de lui rendre hommage, d'autant plus qu'elle était encore active à plus de 90 ans dans le domaine de la théorie de la relativité générale. Je vais y arriver. Oh là là, il est temps que ça se termine cette émission. Je suis désolé. pas simple de pouvoir reprendre comme ça le cours de ce rythme hebdomadaire, bien évidemment. Avant de nous quitter, 13h54 pile, je voulais juste évoquer cette campagne choc. Choc, mais peut-être finalement assez efficace, avec au moins 47 000 personnes touchées, plus de 17 000 décès chaque année en France. Je parle du cancer colorectal, qui est le deuxième cancer le plus meurtrier du pays. Pourtant, dans 9 cas sur 10, il pourrait être guéri s'il était détecté à temps. Malheureusement, il y a 3 personnes sur 4 qui ne réalisent pas le dépistage, qui est un geste pourtant simple, rapide et gratuit. Et donc cette année, la Ligue contre le cancer frappe fort avec un slogan choc qui se réduit à ceci, va chier. Tout simplement, l'objectif, c'est de provoquer une prise de conscience et d'inciter chacun à agir pour sauver des vies. Nous sommes en mars, c'est mars bleu, le mois dédié à la prévention au dépistage du cancer colorectal, et l'enjeu est de taille, c'est de sensibiliser la population et plus spécifiquement les 50-74 ans qui sont particulièrement concernés par cette maladie et les encourager à se faire dépister, parce qu'en effet, trop souvent, ce cancer évolue sans symptômes et un diagnostic tardif réduit considérablement les chances de guérison. Le dépistage du cancer colorectal est un test immunologique gratuit, recommandé tous les 2 ans pour les hommes et les femmes. Il peut être réalisé chez soi en quelques minutes et les résultats sont accessibles en ligne 3 jours à peu près après l'envoi du test. Concrètement, il suffit tout simplement de prélever un échantillon de sel à l'aide du kit disponible en ligne, en pharmacie ou chez votre médecin, puis de l'envoyer à un laboratoire pour analyse. Un geste simple et indolore qui pourra éventuellement vous éviter bien des ennuis. Ça a été lancé en 2012 par la Société française d'endoscopie digestive. Ça a été repris par la Ligue contre le cancer depuis. C'est ce qu'on appelle le Colon Tour, une initiative originale de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. L'élément phare de ce Colon Tour, c'est une espèce de structure gonflable en forme de colon géant qui permet aux visiteurs de voyager à l'intérieur d'un intestin, d'observer l'évolution des lésions et de mieux comprendre l'importance du dépistage. Il y a des stands, il y a des animations qui sont proposées également pour cet événement pédagogique sous un aspect ludique qui vise à lever les tabous et à encourager la prévention. Donc le Colon Tour, c'est en ce moment, il y a plus de 160 dates qui sont prévues dans toute la France cette année. Le dépistage est donc un geste essentiel pour sauver des vies, alors ne passez pas à côté, incitez vos proches à faire de même et donc suivez le conseil de la Ligue contre le cancer avec son slogan « Va chier » et surtout « Va te faire dépister ». Ce serait peut-être pas mal. C'est la fin de cette émission. J'étais très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission. On continuera bien sûr à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Merci de votre attention, de votre fidélité. Et puis d'ici samedi prochain, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.